table ronde puisque nous en faisons 5 le samedi. On les annonce dans pas longtemps. Merci Karine.
On aura aussi un concert d'Ogezor alors le samedi soir vers 18h. Pierre-Marie et donc les ex Entropie Zéro qu'on a écouté apparemment il y a un petit moment dans cette émission. Là, il y a leur nouvel album Distortion Process qui est sorti, mais on n'aura pas le temps d'écouter ça. Donc on vous dit à plus dans Imaginaire sur le 101.5.
Prochaine émission pour faire le débriefing d'Imaginaire, 11e édition.
Je te passe le micro comme ça direct. Salut.
Salut.
Salut. Salut.
Un petit coup de diffuseur, allez.
Jamais démodé depuis la naissance, toujours idée d'actu. Ici, regarde à qui on nous identifie, des sauvages révoltés. Ça, c'est tout ce dont j'ai flé. Le soleil tape, mais les soucis en rien ne se modifient. Et qui a dit que dans le sud, la vie, c'est magnifique. De ville en ville, les ennuis ne changent pas. Devant les naïfs, je passe aussi pour un abruti quand je parle. Qui n'admet pas la peur que le malheur y frappe sec. Tous d'accord, hier t'es tu, aujourd'hui tu
l'accepte. Tous les autres, ils le savent. Condamné à ne pas rester sur la touche, puis tout jeune. Tente d'esquiver le sale. À chaque message, tous les nôtres ils le savent. Condamné à ne pas rester sur la touche, puis tout jeune, on tente d'esquiver le sale. Libérez-moi de ce manège et du vertige avant tout. Libérez-moi de ce siège qui t'a blessé au vautour. Embarrassé pas du tout, je n'attends rien en retour. Tous qui ont visé la coupe sont tous sortis de la poule. À court, la street, pareil qu'elle est si maligne. Et la thune, il en faut sans trouver un synonyme. Épargné, banalisé, foncé, sans vérifier. Ouais gros, t'as qu'un...
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. C'est pas le bon générique? Merde. Je vais y arriver.
Bleu et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space. Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizards, the wonderful wizard of Oz. You'll find the edge of wizard of Oz. If ever a wizard of Oz, if ever a wizard of Oz, there was, the wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. Bonsoir chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une émission un petit peu particulière, c'est une émission en direct. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait en direct sur les Voix du Scénarium. Habituellement c'était de l'enregistrement. Du coup j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Et puis j'espère que vous allez passer un bon agréable moment en ma compagnie et celle des voix. Ce soir, on finira la partie de Chronique oubliée Cthulhu. Alors, une partie qui a été faite quasiment sans D. On va parler également d'une sortie que j'attendais beaucoup sur une plateforme de financement participatif. Et puis on parlera aussi d'années 60 qui ne sont pas celles que vous avez connues, qui ne sont pas celles que j'ai connues, même si je suis peut-être un petit peu jeune pour avoir connu peu importe quelles années 60, mais aussi de cette adaptation en jeu de rôle dont on va reparler tout à l'heure, qui est l'adaptation du jeu Fallout. Je suis sûr que je le prononce pas comme il faut, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez du coup passé un bon moment, ma compagnie. Non, c'est pas fini, pardon, je vais trop vite, mais on va y arriver. Bon, par quoi on va commencer? Alors, on va commencer directement avec la sortie en financement participatif de DAI. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, peut-être, pas du tout. Bon, alors, ça se passe sur la plateforme Kickstarter. C'est un jeu de rôle. Alors, le Kickstarter, le financement, le full lancement, comme on devrait le dire, n'est pas encore commencé. Ça devrait arrivé, on ne sait pas encore quand, mais c'est le financement du jeu de rôle adapté de la bande dessinée de Kieron Gillen et Stéphanie Hans Dai, que vous avez pu dont vous avez pu entendre parler lors d'une précédente émission, parce que j'en avais déjà parlé, je crois qu'au tout début des Voix du Scénarium, et puis j'en avais également parlé dans la case de Seb, puisque c'est une bande dessinée qui parle à la fois de jeux de rôle, et puis c'est une bande dessinée, donc forcément, c'était forcément ma tasse de thé. Un petit récapitulatif de quoi ça parle, en fait, DAI. DAI, c'est une... l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui va avoir des ados qui sont rôlistes et qui vont, pour l'anniversaire de l'un d'entre eux, participer à à une partie de jeu de rôle un petit peu particulière qui a été créée par l'un des leurs. Et cette partie de jeu de rôle va avoir une tournure assez inattendue, puisque ce groupe de jeunes ados va disparaître pendant une période donnée. Je ne vais pas redire le délai, mais ils disparaissent. Et puis un jour, ils réapparaissent, mais jamais aucun d'entre eux ne va expliquer ce qui s'est passé. Et puis, un certain nombre d'années après, l'un d'eux, alors ils étaient 6 au départ et ils reviennent uniquement à 5. Je vais y arriver un moment à vous expliquer ça correctement. Et quand l'un d'eux va revenir voir ses camarades qu'il n'a pas vus depuis un moment, ils se sont tous plus ou moins séparés, et il va leur dire, écoutez, il faut qu'on retourne chercher notre pote, celui qu'on a oublié dans ce monde de fantasy où on a été pendant toute cette période pendant laquelle on n'était pas là, et on va falloir qu'on aille le chercher. Et du coup, ils vont s'embarquer dans une aventure dont ils vont pas revenir indemnes. Alors, première incursion dans ce monde magique n'était pas vraiment aussi une partie de plaisir, mais ils vont avoir cette obligation et ces moments très très forts. Pourquoi c'est intéressant d'ailleurs? Déjà parce que Kieron Gillen, c'est quand même un scénariste qui est assez dingue. On lui doit The Wicked and the Divine, on lui doit également certains albums de Vador, en comics bien sûr. C'est quelqu'un qui est capable de s'approprier du culturel pour en faire un terreau à histoire de manière assez formidable. Si on associe à ça le dessin de Stéphanie Hans, qui est, je sais pas comment l'expliquer, il est assez fabuleux. J'ai l'impression que c'est c'est très fluide, c'est des gestions des couleurs qui sont... il y a des contrastes très forts qui fonctionnent très très bien, et il y a un imaginaire qui est extrêmement présent, qui fonctionne super bien, qui est assez assez fabuleux. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez dingue, et je vous invite vraiment vraiment à écouter, à lire Die de Karen Gillan et Stephanie Hans, qui est publié aux éditions Panini. Et puis vous dites, oui, mais bon, d'accord, ça parle de jeu de rôle, ok, mais dans une émission sur le jeu de rôle, t'as peut-être quelque chose d'un peu plus important à nous apporter. Oui, alors effectivement, il faut savoir que Kieron Gillen, dès la création du comics, il avait pour intention de créer un jeu de rôle basé dessus. Il a fourni exactement tous les éléments nécessaires au jeu, qui était disponible gratuitement en alpha et en bêta, en téléchargement directement sur un site. Alors, je n'ai pas le nom, mais vous tapez Kieron Gillen Die Règles, vous devriez pouvoir y accéder. Et là, en fait, c'est l'occasion de pouvoir découvrir le jeu dans une version définitive, une version aboutie, et de participer à la création de ce jeu-là en finançant, en faisant une sorte de pré-publication, ce qu'ils appellent les pré-commandes participatives. Ça a plein de noms et ça a plein de variations actuellement. Et du coup, ça va pouvoir permettre effectivement de créer ce jeu en dur. Alors, voilà. Donc, la problématique. Donc, si les trois premiers tomes sont disponibles de Die, sont disponibles chez Panini Comics en VF, là, le financement se passera sur la plateforme Kickstarter. Pour l'instant, ce n'est pas encore lancé. Ça devrait venir dans pas trop trop longtemps. Et il y a de fortes chances que ce ne soit qu'en anglais. Alors, amis anglophones, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être une très très bonne idée de participer à ça. Mais voilà, je peux pas vous dire ce qu'il en sera. Je n'ai toujours pas d'informations plus détaillées sur ce qui va être cette campagne. Un des gros intérêts des financements participatifs, si vous n'avez pas l'habitude, c'est que les financements participatifs permettent d'acquérir parfois, pas toujours, des contenus qui seront exclusifs à ce financement participatif et qui ne seront disponibles jamais ailleurs autrement. Donc voilà, n'hésitez pas. Surveillez Kickstarter. Normalement, vous pouvez vous mettre sur les rangs pour être prévenu dès le lancement et être parmi les premières personnes à financer cet ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment très sympa. Lisez la BD si vous n'êtes pas convaincu parce que je vous annonce et que parce que ce jeu-là, à mon avis, sera vraiment très intéressant. Mais n'hésitez pas à lire la BD de Kieron Gillen et Stephanie Hans aux éditions Panini Comics, et puis à suivre ce financement participatif directement sur la plateforme Kickstarter. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un morceau qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance de l'ouvrage dont on va parler dans quelques instants. Ça se passe dans les années 50 aux États-Unis, à 50-60, j'ai toujours un doute. Et là, je vous mets une petite musique iconique de cette période-là, à savoir Pink Cadillac de Jerry Lee Lewis.
With an apple, but man, I ain't going for that. little too big, uses too much gas. Some folks say it's too old, it goes just a little too fast.
Un bon vieux rock'n'roll des années 50, comme on n'en fait plus sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. Voilà, je suis de nouveau, comme je le disais, en direct. J'espère que ça vous fait plaisir. Là, on va aborder un morceau, un ouvrage que certains attendaient peut-être, un ouvrage qui a suscité pas mal de convoitises. Il s'agit du livre de base de jeu de rôle Fallout, le jeu de rôle officiel publié par Arkane Asylum dans sa version française et développé par Mofidius dans sa version anglaise. Alors, chez vous là, qui ne connaît pas Fallout, le jeu de rôle, enfin le juste la franchise? Non? Personne? Ok, bon, moi je vais faire un petit récapitulatif. Il s'agit en fait d'une franchise de jeux de rôle qui a débuté il y a bien longtemps. Je ne vais pas vous donner de date parce que vous savez que je fais très très mal mes devoirs. J'exige que mes enfants les fassent bien, mais du coup, moi j'ai tendance à ne pas vérifier certaines choses. Et en fait, c'est un jeu de rôle, un jeu d'ordinateur en ligne, dans lequel vous incarnez un personnage qui vit dans un monde dévasté, ce qu'on appelle les terres dévastées, un monde post-apocalyptique qui a été entièrement ravagé par une apocalypse nucléaire. Alors vous dites, oui, mais les post-apocalyptiques, c'est devenu fréquent, on sait exactement ce que c'est, Mad Max, Hunger Games, c'est du post-apo de mémoire, hein. Y a toujours, on connaît. Mais l'intérêt, en fait, de Fallout, c'est que cet univers post-apocalyptique prend suite à ces années 50. Imaginez, en fait, une période complète de prospérité aux États-Unis et il y a une espèce de course à l'armement, il y a une espèce de guerre larvée, un conflit avec la Chine qui se crée. Les États-Unis sont... se battent au Canada contre la Chine qui a tenté d'envahir les États-Unis par le Canada. Et puis un jour, peut-être une nuit, je ne sais plus vraiment, on ne sait même pas non plus qui a lancé la première ogive, mais les radars américains détectent un missile nucléaire qui va ravager une de leurs grandes villes. La réplique se fait de manière aussitôt et aussi sec et très violente. Et tous les autres pays vont s'y... toutes les personnes équipées de l'arme nucléaire vont déclencher un feu de sang et d'acier et de radiation. En quelques instants, le monde est complètement plongé dans un chaos catastrophique. Un hiver nucléaire. Et nombreuses années plus tard, des gens vont commencer à réapparaître. Des gens vont sortir de certains abris anti-atomiques, puisque les Américains pouvaient compter sur une société qui s'appelle Voltech, qui avait créé, pour le bien-être de la population, des abris anti-nucléaires. On verra que ce n'était pas forcément que pour le bien de la population, et que ces abris anti-nucléaires ont permis à des gens de survivre. Mais Il n'y a pas que les gens qui étaient dans les abris qui ont survécu. Il y a d'autres personnes à l'extérieur qui ont survécu, qui ont tenté de reconstruire un semblant de civilisation. Et on va pouvoir découvrir ce monde. Alors, il faut savoir que Fallout, c'était un jeu qui proposait de jouer plus ou moins en totale liberté, un peu comme le jeu de rôle sur table pouvait le proposer. Mais le fait d'être dans un jeu vidéo, on était plus proche d'un livre dont vous êtes le héros, avec différents embranchements, en fonction de certaines décisions, plutôt que d'un vrai jeu complètement libre sur table, où seul l'imaginaire, en fait, peut prendre le relais. Donc, c'était que normal, en fait, qu'un jour, un jeu de rôle Fallout soit édité. Et c'est désormais le cas avec cette édition publiée justement en français chez Arcane Asylum. Je vais reprendre rapidement un petit point qu'on a évoqué il y a quelques instants, c'est qu'il y a des abris anti-chimie atomique qui ont été créés par une société qui s'appelle Voltech. Cette société, elle n'avait pas envie de faire juste le bien de l'humanité. En fait, elle avait des accords gouvernementaux. Alors, on n'a pas tous les détails, puisque le jeu regorge encore de beaucoup de secrets. Il y a plein de zones d'ombre qui ne sont pas encore mises en éclairage. Mais Voltech, en fait, se servait de ces abris pour mener des expériences sociales, physiques, médicales. Rarement pour le bien de leurs habitants. Ces habitants qui sont facilement reconnaissables avec une espèce de combinaison bleue avec des liserés jaunes, hein, bon goût, subissaient en fait des expériences de la part de Voltech, des expériences qui allaient les pousser dans différents retranchements. Pardon. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme expérience, par exemple? Eh bien, on pouvait avoir une expérience qui allait mettre, par exemple, un certain nombre d'habitants dans un bunker, dans un abri anti-nucléaire, avec tout le confort pour pouvoir continuer à survivre, des trucs pour traiter les radiations, des trucs pour traiter de l'eau, des trucs pour créer de la nourriture, des salles de sport et tout. Et puis en fait, parmi tous ces habitants, on se rend compte qu'il y a 99 femmes et un seul homme. Et du coup, il y a une personne qui est le superviseur qui va se débrouiller pour que l'expérience se déroule selon les conditions édictées par Voltech. On peut aussi avoir des gens qui vont être plongés en cryogénisation, ou des gens qui vont être connectés complètement à une intelligence artificielle qui va leur faire croire qu'il ne s'est jamais rien passé. Autant d'expériences, aussi dérangeantes soient-elles, que les joueurs, par l'intermédiaire d'un habitant d'abri, en règle générale, vont être amenés à découvrir, à parcourir les terres désolées. Mais on va aussi découvrir des mondes qui se reconstituent. On va découvrir des groupements comme la confrérie de l'acier qui essaie de faire régner un semblant d'ordre. On va aussi découvrir d'autres structures qui tentent de faire revivre l'Amérique dans sa grande splendeur. Ou au contraire, des gens qui ont décidé de recréer une nation à l'image des anciennes légions romaines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans Fallout, ce qui fait que ça en rend un univers extrêmement riche et qui est hyper intéressant. On a actuellement, sauf erreur de ma part, 6 jeux Fallout qui existent. On a Fallout 1, 2, 3, 4, on a Fallout 76, on a Fallout New Vegas, et il y a dû y avoir un Fallout Tactics. Je ne sais pas s'il est vraiment canon, ce Fallout-là. C'est des dérivés. Et du coup, il y a aussi un petit jeu sur mobile qui est assez rigolo pour reprendre l'ambiance à l'intérieur d'un bunker, d'un abri anti-atomique qui s'appelle Fallout Shelter, où le but est justement d'avoir des habitants qui vont pouvoir survivre le plus longtemps possible dans cet univers. Alors pourquoi ? Vous imaginez bien en m'écoutant que c'est une franchise que j'adore, que j'attendais franchement la sortie en version papier. Et je suis un petit peu mitigé. Je dis pas de mal des choses que j'aime pas, je n'en parle pas. Là, je l'aime ce livre, ça me donne envie de le lire, mais je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'il manque un petit peu de caractère. Il manque peut-être un petit peu de mise en page, il manque peut-être un peu d'ambiance. C'est propre, c'est facilement lisible, mais il manque, je sais pas, peut-être un coup de design, un coup de direction artistique un peu plus poussé pour nous immerger vraiment dans cet univers qui a un vrai caractère. Donc c'est un petit peu particulier. Un autre point qui m'embête, mais qui peut se comprendre aussi, c'est que Arkane Asylum et Mophitus auparavant ont choisi en fait de maintenir l'action du jeu de rôle Fallout pendant les événements de Fallout 4. Donc ça me fait un petit peu penser à un jeu qui serait plus l'adaptation du jeu vidéo Fallout 4 plutôt que de l'adaptation de la série de jeux de jeux vidéo Fallout. C'est ce qui me gêne un petit peu dans cette façon de faire, et du coup c'est ça qui me déçoit un petit peu. Après, le bouquin est très beau, les dessins sont vraiment sympas, l'écriture, la mise en page est très aérée, ce qui permet d'avoir une lecture qui est plutôt fluide. Ce matin, je cherchais des choses en pensant avoir lu 3-4 pages, en fait j'en avais lu beaucoup plus que ça, c'était plus loin, c'était bien, bien pensé. On est sur un livre qui fait 420 pages, sauf si je me trompe, ce qui rend un ouvrage assez dense, assez important, dans lequel on va vraiment découvrir tout cet univers de Fallout pour pouvoir jouer dans ces terres désolées et vivre autant d'aventures qu'il est possible, puisqu'il n'y a pas de trame, on va dire, imposée, même si la découverte d'expérience de Votek dans les abris va pouvoir être un des ressorts scénaristiques aussi intéressant que possible. Mais après, vous pouvez simplement décider de survivre avec vos copains et puis de construire une nouvelle communauté. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, mais voilà, ce sera à vous de le faire. Un point aussi qui pourrait perturber un peu les gens, c'est que le système de jeu de Fallout reprenait un système à base de pourcentage où vous pouvez faire progresser des compétences. Là, on abandonne ce système-là, on a un système qui est différent, qui est maison, qui est plutôt simple, mais en même temps qui est facile à prendre en main, ce qui rend le jeu quand même hyper accessible. En gros, on va avoir une association caractéristiques-compétences, on additionne les deux, ça nous donne un seuil, on va lancer un des 20, si on fait en dessous de ce seuil, c'est une réussite, si on fait un 1, ça compte pour deux réussites, si on fait un 20, c'est une complication. En pratique, vous avez un jet pour courir à faire. Vous allez jeter le nombre de dés qui correspond à votre pôle de dés. Il va falloir faire en dessous de la compétence plus la caractéristique. Si vous avez le nombre de réussites qui correspond, vous avez réussi votre jet. Si vous avez fait un 20, mais que vous avez fait le nombre de réussites, vous réussissez votre jet, mais il y a quand même une complication. Je reprends mon exemple de la course. Vous pouvez avoir couru, mais vous êtes pris un caillou et vous êtes gadiné la tête. Donc vous avez atteint votre distance, mais du coup, vous vous êtes blessé au passage. Ça rend le système très simple, très fluide à prendre en main, et ça peut être super agréable à essayer. Donc je pense que je vais proposer aux voix de parcourir les terres désolées en ma compagnie sur un scénario, bien sûr, que je vais créer pour l'occasion, parce que je ne veux pas déflorer la surprise, que ce soit pour les joueurs ou le maître de jeu, des scénarios qui sont présents dans l'ouvrage. Mais ça peut être une très très belle occasion de non seulement vous faire découvrir cet univers des terres désolées, mais également de vous faire découvrir ce jeu de rôle Fallout. Que dire de plus, si ce n'est que ça a l'air de bien fonctionner. Alors, j'entre pas beaucoup plus dans les détails, je l'ai reçu hier, et vous doutez bien que 420 pages, je les ai pas mangées comme ça. J'ai un travail à côté, ce qui me permet de vivre, et puis je lis du coup sur mon temps libre, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. N'hésitez pas. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. On n'est pas sur un ouvrage qui est très 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 onéreux par rapport au standard actuel. Ça reste un ouvrage qui, voilà, de toute façon, le prix du livre étant fixe, 55€. Je fais pas de pub, mais 55€ pour 420 pages, je pense que le rapport qualité-prix est plutôt quantité-prix est plutôt correct. À ça, vous allez pouvoir ajouter une série de dés spécifiques et puis un petit goodies, alors que pas forcément nécessaire. Le jeu utilise un certain nombre de points d'action, et pour symboliser les points d'action, ils ont repris la monnaie qui est utilisé dans le jeu. Il faut savoir que dans ce monde post-apocalyptique, on a considéré que certains objets qui étaient très fréquents devaient être la monnaie de l'époque, à savoir les caps, les bouchons de percule de bouteilles de Nuka-Cola, qui était une boisson qui parodie bien évidemment une célèbre marque. Et du coup, bah, vous pouvez acheter un lot de caps estampillés Nuka-Cola de manière officielle, ce qui permet de rythmer un petit peu plus vos parties et de les intégrer vraiment dans l'ambiance. Voilà, je ne vois pas quoi dire de plus, à part que c'est un bel ouvrage. Je détaillerai un petit peu plus, je pense que je ferai beaucoup d'autres choses, et on pourra sans doute parcourir les terres désolées dans pas mal de temps. Voilà pour la partie présentation. Dans quelques instants, on va retrouver les voix qui étaient jouées par Cyril, je sais même plus, si Cyril, Thierry et Juliette, j'ai un doute. Ah, le nul, qui venait de découvrir un sombre secret familial dans cette partie de Chronique oubliée sans jeu de rôle, sans jet, mais... ça, ce sera après une courte pause musicale. L'ambiance était très rock metal, donc là, pour vous faire une petite pause musicale, je vous ai choisi Lord of the Lost, The Heartbeat of the Devil.
On me, worn out, I'm a ghost. What could I do to bring you closer? Stand with me on the edge of the sky.
heartbeat of the devil.
Lord of the Lost, ce Heartbeat of the Devil sur le 101.5 de Radio G. Il est temps de vous laisser en compagnie des voix que je vais vous mettre. Alors je remets un petit peu la situation. Après le décès et certains événements, on va dire qu'on va qualifier d'ectoplasmique lors d'un concert de rock. Un groupe plutôt hétéroclite composé d'un psychiatre, d'un journaliste et d'une écrivaine vont se mettre à enquêter sur ces événements plutôt étranges qui vont les mener dans une famille qui renferme probablement un grand secret. Je vous laisse en compagnie des voix. Après s'être levé, Monsieur Dufrance a verrouillé les portes et a annoncé qu'il aurait des choses à vous révéler, à condition que vous en soyez digne de confiance. Son regard grisacier se plante dans les yeux de chacun d'entre vous et un frisson vous parcourt l'échine malgré vous. C'est qu'il ne serait pas aimable quand il n'a pas envie, le petit monsieur. Ça a renforcé à sa coupe de cheveux très spartiate. Vous avez vraiment l'impression qu'il pourrait arriver à déchiffrer les tréfonds de votre âme. Il vous regarde tour à tour. Plusieurs fois. Je pense que vous le savez, ma famille est très ancienne. Je ne vais pas vous faire le cliché d'une famille garante de secrets inavouables et de vieilles choses. Mais j'ai une passion pour les choses anciennes et pour les secrets. Et j'ai découvert de vieilles pratiques. Des pratiques qui perduraient par des personnes. Et ces personnes m'ont fait confiance. Ce que je vais vous révéler méritera votre confiance. Si vous la trahissez, je pense que vous serez capable d'en deviner les conséquences. Je fais partie... Oui.
Vous nous dites qu'on doit vous rassurer sur le fait d'être de confiance. Mais la question, c'est... Pourquoi vous nous confiez cela ?
L'explication viendra en son temps.
Très bien. Tout ce que je voulais savoir.
Si vous jugez que le risque n'en vaut pas la chandelle...
Bien, je n'ai pas dit ça.
Je vous invite à sortir.
Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas, vous avez fermé la porte.
Il la déverrouille, si tu veux.
Je me rassieds.
Je fais partie d'un... ce que certains appelleront une secte. Une secte qui engrange les savoirs, qui essaie de comprendre ce qui dirige le monde, ce qui tend les gens à être ce qu'ils sont et leur comportement. Nous sommes plutôt inoffensifs, mais nous savons qu'il existe des gens qui le sont moins. Je n'ai pas partagé ce secret avec mes enfants. Ma femme fait partie de cette confrérie et nous pratiquons certaines choses, certains rituels. Le livre que vous avez sorti de ma bibliothèque est un livre qui normalement doit y rester. Un livre qui renferme certaines pratiques occultes et interdites qui ne doivent absolument pas sortir de ce livre. Vous me dites qu'elles ont un lien avec le décès de mon fils.
Oui.
Oui.
C'est évident.
Page, j'indique la page et le,
Elles sont pas numérotées. Hein, donc...
Non, mais en fait, juste...
Si vous avez remarqué la dernière lubie de Valère, c'était son tatouage. Et il semble que c'est une reproduction quasiment exacte d'une page particulière. Et le texte qui est écrit à côté, c'est le texte de la chanson qu'il a chantée.
Mon fils est un idiot. Était un idiot.
Visiblement, vous n'avez pas bien protégé votre œuvre non plus, votre ouvrage non plus. Pour qu'il tombe dessus si facilement, et nous aussi.
Vous savez ce que l'on dit. Le meilleur moyen de protéger quelque chose est de le mettre en pleine lumière.
Bonnet de tout le monde.
Pensez-vous qu'il soit mieux protégé un coffre-fort que tout le monde voudra percer ? Bref. Si j'ai... Montrez-moi la page.
Vous permettez ?
Allez-y.
À nouveau, c'est pas très radiophonique.
Ah, pardon. J'ouvre le livre, je fais défiler les pages et je repose le livre sur la bonne double page. Et donc, je montre le dessin, je montre le texte et sur mon smartphone, j'affiche la photo du tatouage.
Ok. Et regarde. Un instant. Il commence à parcourir le texte. Il s'est passé quoi au concert ? Redites-moi.
Des convulsions.
Une lueur verte.
La lueur verte qui émanait de lui et le plancher qui s'effondre et toute ce liquide vert qui faisait fondre son ami Rick et mon agent de sécurité.
Si vous n'êtes pas calé en magie, en pratique occulte, ce serait plutôt judicieux de dire cela, vous n'êtes pas sans savoir que parfois il faut des composantes verbales et des composantes physiques. Dessiner un pentagramme, un symbole et réciter certaines paroles pour faire des invocations. C'est ce qu'on peut trouver dans certains rites. Eh bien, mon fils a eu visiblement la brillante idée de chanter une invocation en ayant tracé un pentacle sur lui-même.
Donc, je m'en doutais.
J'aime mon fils, mais c'est un idiot.
Je le savais.
Oh, je le savais. Je le savais que c'était quelque chose du genre. J'ai bien fait d'appeler mon ami exorciste hier. Qu'est-ce qu'il a invoqué ?
C'est une sorte d'entité corrosive. Je ne sais pas si elle est nocive, mais elle ne peut pas rester en liberté. Il semble qu'elle corrode et qu'elle détruise tout ce qu'elle touche.
C'est évident. En effet, c'est ce qu'on a vu.
Vous devez le faire disparaître. Il en va de votre responsabilité, votre fille. Vous tenez une part de responsabilité dans la mort de votre fils. Vous devez réparer ça.
Je ne peux le faire seul. Vous allez m'y aider.
Vous n'avez pas le choix, de toute façon.
Non.
Vous non plus, vous n'avez pas le choix. Nicolas. Monsieur Roche.
Ai-je bien compris, vous sous-entendez que le liquide vert qui est apparu serait une entité corrosive.
Une sorte d'entité cosmique.
Oh !
Très vieille.
Qui a sans doute été pompée par les services de nettoyage.
Ils n'auront sans doute pas pu faire grand-chose.
Je ne pense pas. Je pense qu'elle est toujours là-bas.
De ce que j'ai entendu dire, le site est simplement fermé pour l'instant.
Mais nous n'avons pas besoin d'y aller.
Oh.
Nous allons la conjurer dès ici.
Vous voulez la réinvoquer ici ?
Non, la conjurer.
La conjurer.
Ouais, mais pour la conjurer, il faut l'invoquer, non ?
Non, elle est déjà invoquée.
Elle est déjà invoquée.
Je suis pas expert en magie.
Mais ça se voit. On va vous apprendre.
Non, je veux pas.
Moi, je veux pas non plus, apprendre. Après ça, je ne veux plus jamais entendre parler.
Ah, j'ai cru que vous vouliez plus jamais apprendre.
Vous semblez tous plutôt costauds.
Nous comment c'est devoir... costaud?
Non, je suis tout maigre.
Nous allons devoir descendre le cercueil de mon fils.
Oh.
Est-ce que ce qui a fait doit permettre de défaire?
Avant qu'il soit enterré de préférence.
Oui, eh bien, on cherche cela.
Donc, vous repassez dans la pièce d'à côté. Et il vous dit, ben, prenez le cercueil, je vais vous aider. Mmh. On va descendre.
Eh ben, on porte...
C'est lourd, un cercueil.
Ouais, mais il était tout maigre, son fils.
Oui, mais le bois, c'est lourd. Hein. Et, ça, et vu la richesse de la famille, ça doit être du bon chêne.
Il bien, est quand bien même lourd, bien lourd.
On est quatre, ça devrait aller.
Il faut ça au minimum, ouais.
Disons qu'on va se répartir et puis que toi, tu vas te mettre du côté du papy parce que...
vous repassez par le hall... Et il vous fait passer par la porte sur le côté. Et vous descendez un escalier. Et puis plus... Au bout d'un moment, l'escalier arrive sur une espèce de petite pente douce, en terre, qui descend. Ça descend pendant presque 5 minutes. Avant que vous arriviez, il y a une espèce de grande coupole qui s'ouvre. Avec un petit clapotis d'eau. Un peu plus loin. Il vous fait avancer, puis vous avez une espèce de grand puits au centre de la pièce. Il vous dit, posons-le ici.
Et
vous le posez. Mmh. Vous avez les épaules qui sont bien endolories. Ça a bien tiré sur les épaules. Et vous remarquez autour de vous une espèce de petite luminosité, comme s'il y a des petits champignons qui... faisait une espèce de petite bioluminescence. Il s'approche dans un endroit qui est un peu sombre. Vous entendez le craquement d'une allumette et il allume plusieurs bougies. Nous allons faire un rituel pour conjurer cette créature, la renvoyer d'où elle vient. C'est ici que se réunit la confrérie dont je fais partie. Ce que vous allez voir, vous n'en parlerez jamais. Et j'en suis sûr. Et je ferai tout pour que vous n'en parliez jamais. Installez-vous. Et il tend l'un un petit récipient avec une espèce de poudre. À l'autre, il tend un couteau. À l'autre, il tend une bougie. Qui est sculpté dans des motifs plutôt étranges. Et il commence.
J'échange avec...
Non, je garde le couteau.
Je veux pas le couteau.
Non,
couteau, ça pue.
J'échange pas.
Accepte le rôle qu'on t'a donné.
Et il commence...
Non, je te taise.
...à faire certains dessins sur l'autel, une espèce de grand autel en pierre sur lequel il y avait tous ces objets. Et il fait des dessins. Et il commence à faire quelques dessins. Il trace des symboles dans l'air. Il prononce quelques phrases. Bon, il a descendu le grand livre. Hein. Et le livre commence à légèrement scintiller. C'est pas uniforme comme vous avez pu le voir avant. Là, ça fait plus une espèce de petite poudre, en fait, qui commencerait à... Comme s'il a fait clochette, avait aspergé le bouquin, en fait, de fées, de poussière de fées. Mmh. Non, on avait dit qu'on n'abordait pas les sujets comme ça.
Pas la fée clochette.
Pas la fée clochette. Et le livre commence à légèrement scintiller. Vous sentez une espèce de... C'est surtout toi, Charles, en fait, qui te rend compte qu'il y a une espèce d'onde qui commence à... Un petit bourdonnement sourd et qui, pour une fois, n'a pas l'air de provenir de l'extérieur. Il entonne certains chants. À un moment, il prend la bougie. Il en allume d'autres. Il prend la poudre, il en passe à certains endroits, il redessine des petites choses, et puis il prend le couteau. Il prend ta main, il prend le couteau, il fait une entaille. Et il te fait serrer le poing au-dessus, à Nicolas, au-dessus du puits. Il prend la main d'Yuri. Tu retiens, tu fais...
Je pense qu'au début, j'ai un mouvement de... Ouais, non, je retiens. Je retiens. Ah, pardon, je l'ai pas fait là. Je retiens.
Il tend la main et son regard est formel. Il veut que tu tendes sa main.
Vous d'abord. Il se l'est pas fait à lui.
Ce n'est pas négociable.
Ce n'est vraiment pas négociable.
Charles.
Moi j'y vais.
Tends la main.
Il saute à pieds joints, Charles.
Il met sa main.
Sans problème.
Maintenant, Yuri.
Vous d'abord.
Il prononce quelques paroles. Et bien malgré toi, il tend la main.
C'est un scénario. C'est scandaleux. C'est un vrai scandale.
Alors, on refait là sans parler trop fort, parce que c'est monté très vite.
Non, mais vas-y. C'est un scénario, c'est scandaleux.
Il tend la main. Il te fait une entaille. Je vous laisse y aller. Ou je vous aide.
J'écrase moi-même ma main.
Il se fait une entaille. Okay. Il va la mettre au-dessus du puits. Vous entendez le bourdonnement qui commence à se répandre également dans le sol, en plus de se répandre autour de vous. Une lumière commence à scintiller à l'intérieur du puits. Une espèce de lumière verte commence à ressortir. Une espèce d'aura a l'air de monter de plus en plus. Et puis tout à coup, vous voyez sortir du puits des espèces de tentacules, on va dire, verts, translucides. Les tentacules commencent à, comme des aveugles, à tâtonner un petit peu autour, à ne pas trop savoir quoi faire. Puis ils semblent se diriger vers quelque chose. Cette vision vous fait très peur. Mentalement, c'est comme si quelque chose s'était brisé en vous, comme si effectivement on avait déchiré le voile de la réalité pour vous faire entrevoir une absurdité immense et immonde. Les tentacules commencent à se rapprocher du cercueil, l'entourent et commencent à le lever et à le basculer dans le puits. Monsieur Dufrance ne semble pas en prendre ombrage, ne s'inquiéter de ça. Et puis l'onde sonore, l'onde vibratoire que vous ressentiez depuis un petit moment, s'estompe petit à petit. Et tout redevient calme.
C'était fini, monsieur Dufrance ?
Oui. Vous notez que certaines choses ne doivent jamais être réveillées.
Non, mais on va plus en parler. On peut y aller ?
Vous pouvez y aller. Mais sachez que vous serez toujours les bienvenus parmi la confrérie des Lumières.
Adieu, monsieur Dufrance.
Merci, monsieur Dufrance.
J'avais raison depuis le début. Les énergies cosmiques.
Je vous raccompagne jusqu'en haut.
Là, c'est les énergies du puits.
Non, c'est les éditions du puits. Voilà. Est-ce que vous voulez faire des choses après, conclure? Je pense que la conclusion peut s'arrêter là, ça marche bien.
Ouais. Enfin, sauter dans un taxi, partir loin, changer de pays, prendre beaucoup de douches.
Ne plus jamais toucher les
lumières. Faire examiner ma main aussi.
T'as peut-être le tétanos.
Moi, je reviens au milieu de la nuit et je vais taser
tout M. Cramé. Dufrance.
Dans son sommeil, je le teste. Si vous voulez rejoindre votre fils, allez, je le balance.
Là, ouais, j'avais déjà commencé à rédiger mon prochain bouquin quand il a dit qu'il fallait en parler à personne, donc je suis un petit peu déçue. Mais Charles Martial est extrêmement ravi de cette expérience. Et la cuate, c'est de recommencer.
De toute façon, tu vas être le seul, je pense, à rejoindre la société des
Lumières. Ah, mais là, écoute.
Voilà pour cette émission des Voix d'Icénarium qui touche à sa fin. J'espère que cette partie vous a plu, que cette ambiance vous a fait plaisir. Vous voyez, on s'amuse bien quand même, même si on raconte des horreurs, si on se passe des choses
Bah, pas forcément super glauque. Enfin, si, justement, franchement super glauque. On passe de bons moments. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à contacter la radio, à me dire, bah voilà, bonjour Seb, j'aimerais bien, moi, venir faire une partie avec toi pour les voix du scénarium. Ce serait avec plaisir que je vous accueillerai, puisque... pour reprendre le gimmick d'un magazine de jeux de rôle bien connu, transmettre la flamme, c'est un petit peu mon dada. Et plus il y aura de joueurs de jeux de rôle, plus on sera content et plus un jour on pourra dominer le monde. Mais pas demain, il y a JDR. Je vous donne rendez-vous. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr dans quelques instants. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi pour la case de Seb et mardi pour un nouvel épisode. Excusez-moi. On l'a refait. Et mardi prochain pour arpenter et parcourir à nouveau les voies du scénarium.
Rick Rude.